Bonjour et bienvenue à tous. Merci de participer à ce cours et pour ceux qui viennent de loin, merci de braver les problèmes de transport en commun pour participer à cette dernière leçon. Donc cette dernière leçon va porter en fait sur la contre-réaction quantique qui est l'objectif principal de ce cours. Nous avons jusqu'à présent développé un certain nombre d'idées sur les systèmes quantiques observés par un amplificateur et nous allons maintenant les appliquer à un but crucial pour le contrôle quantique qui est le maintien d'un état dynamique pour un système. Alors, un système quantique livré à lui-même, un système quantique en contact avec un environnement, va spontanément adopter un état qui est l'état fondamental, si l'environnement est à température nulle ou à température très basse par rapport aux écarts d'énergie. Donc, le but, en fait, du feedback, de cette contre-réaction, va être de stabiliser un état quelconque du système, un état qui va avoir une énergie non seulement supérieure à l'état fondamental, ça serait le cas d'un état propre de l'hamiltonien, mais on va aussi pouvoir stabiliser un état dynamique. Et je vais indiquer quel intérêt ça peut avoir. Donc, le séminaire qui va suivre cette dernière leçon va être donné par Benjamin Hua, qui dirige une équipe au LBA travaillant sur les systèmes Josephson, les circuits Josephson quantiques. Et il va nous parler de la réalisation pratique de l'amplificateur que j'ai mentionné plusieurs fois dans ce cours, qui est donc un amplificateur basé sur le modulateur en anneaux Josephson. Et je vous rappelle que Andrew Cleland, qui est l'invité de cette année des professeurs du Collège de France, va donner sa deuxième conférence cet après-midi à 3h et il va nous parler de ses travaux sur les nanorésonateurs mécaniques qu'on peut arriver maintenant à placer dans leur état fondamental. Voilà les différents points que je vais aborder aujourd'hui. Donc je vais parler un peu de la différence entre la contre-réaction classique et quantique. Je vais vous parler donc du contrôle d'un système quantique. Et je vais appliquer tout de suite ces idées à ce phénomène des oscillations de Rabi persistantes qui me paraît un exemple qui est à la fois suffisamment simple pour comprendre les concepts de la contre-réaction quantique, mais aussi qui a un intérêt métrologique, un intérêt pour améliorer la précision des mesures radiofréquences. Après cette introduction, je vais continuer le point que j'avais abordé dans la dernière leçon, qui était l'équation maîtresse stochastique qui nous permet de calculer les performances de la contre-réaction. On peut, par un calcul un peu d'ordre de grandeur, se persuader que cette stabilisation d'un état quantique va plus ou moins marcher, mais pour comprendre, pour prévoir à l'avance les résultats expérimentaux, il faut pouvoir résoudre cette équation maîtresse stochastique. Et donc, je vais vous parler plus en détail de cette équation dans cette deuxième partie. Et puis, après, on verra, on examinera quelques prédictions de ces équations pour donc comprendre si, justement, ces oscillations de Rabi persistantes peuvent être observées. Bon, c'est l'observation de ces oscillations de Rabi n'a pas été faite encore, à ma connaissance. C'est un sujet sur lequel plusieurs laboratoires travaillent actuellement. Alors, évidemment, le contrôle basé sur pourquoi la contre-réaction, eh bien, je crois que une façon la plus simple d'expliquer la chose, c'est de s'imaginer qu'on est dans un avion à haute altitude, mettons 10 km, et que le pilote, disons, fixe les paramètres de vol de l'avion et laisse l'avion voler tout seul. Et pendant un certain temps, l'avion va garder son altitude. Mais au bout d'un certain temps, du fait des perturbations de l'atmosphère, des courants ascendants et descendants, la position de l'appareil, l'altitude de l'appareil va fluctuer. Et c'est extrêmement dangereux, évidemment. Donc, à un moment donné, on peut perdre le contrôle complet de l'avion. Il peut se mettre en perte de vitesse, par exemple. Donc, il faut absolument, disons, réagir en fonction des perturbations. Il faut corriger les perturbations sur les perturbations du mouvement. Donc, en fait, on ne peut jamais corriger parfaitement toutes les perturbations. Il ne faut pas s'imaginer que le but de la contre-réaction, ça va être de maintenir une attitude de vol parfaitement plate. Non, ce qu'on veut faire, c'est de réduire l'amplitude des fluctuations, plus exactement, de la rendre bornée. On veut, finalement, que le système de contrôle établisse une espèce de potentiel artificiel qui maintienne l'appareil à une certaine hauteur. C'est-à-dire que s'il est plus haut, la force, il va y avoir une force de rappel effective qui va le ramener plus bas, et s'il est trop bas, cette force va le ramener plus haut. Donc, c'est le but de la contre-réaction, le but du contrôle, c'est l'établissement d'un potentiel artificiel qui va forcer le système à, disons, converger vers un point dans l'espace des phases, mais aussi, ça c'est également aussi très important, c'est aussi l'établissement d'une dissipation. Parce qu'un potentiel, disons, élastique autour d'un point ne serait pas suffisant. On pourrait imaginer qu'il y ait du bruit de grande amplitude qui fasse des grandes excursions autour de ce minimum. Donc ce n'est pas suffisant. Il faut établir un potentiel et une dissipation. Donc il faut qu'il y ait à la fois une force attractive qui ramène le système dans un point particulier, mais aussi cette force ne peut pas être conservative. Il faut qu'il y ait une dissipation, une partie dissipative. Voilà, c'est ça le but du contrôle. Évidemment, c'est ce que fait le pilote automatique dans un avion. Et donc, chacun a expérimenté un vol dans lequel on voit le pilote passer à l'appareil. Il n'y a plus personne qui contrôle l'avion à certains moments. Et c'est parfois très dangereux parce que... Bon. Le pilote automatique n'a peut-être pas prévu tous les cas. Donc là, ici, on va faire la même chose, mais ce n'est pas un avion qu'on va contrôler, c'est un système quantique individuel, proche de l'état fondamental. Alors, le cas particulier qu'on va discuter pendant cette leçon, c'est le maintien des oscillations de Rabi. Donc, vous savez tous que si on applique un spin, un champ alternatif à la fréquence de l'armor, si le spin, normalement, si les états propres du spin sont suivants Z, si on applique un champ alternatif à la fréquence de l'armor suivant X ou Y, on engendre des oscillations de Rabi, et ces oscillations s'amortissent au cours du temps. Quand on fait des mesures sur le système, que si on cherche à détecter s'il est plutôt up ou down, ça correspond à la projection de la composante Z du spin. Hein. Donc plus 1 dans mes conventions, ça va être spin up, et moins 1, ça va être spin down. Donc on observe ces oscillations de Rabi correspondent à l'oscillation dans la probabilité de trouver le système dans l'état up ou down. Donc, toutes les oscillations de Rabi, en général, s'amortissent. Elles s'amortissent. Pourquoi ? Parce que le système, le spin, ne voit pas simplement ce champ déterministe oscillant suivant x, il voit aussi des champs aléatoires suivant à la fois x et y, et ces champs finalement perturbent la fréquence de Rabi. Normalement, la précession de Rabi, c'est une trajectoire sur la sphère de Bloch qui passe par les pôles. On passe par le pôle nord, on va au pôle sud, on monte au pôle nord. Mais la présence de ces champs aléatoires dans le plan x ou y ralentit ou accélère ce mouvement sur un grand cercle. Et finalement, en moyenne, il y a, au bout d'un certain temps, la fréquence fluctue. Il y a une modulation de fréquence des oscillations de Rabi et l'amplitude moyenne diminue. Alors, le but, le phénomène des oscillations de Rabi persistantes, qui, je le répète, existe pour l'instant uniquement sur le plan théorique, le créateur de cette idée, c'est Sacha Korotkov, qui a imaginé ce protocole pour la première fois. Eh bien, ça serait on va effectuer une mesure continue sur le spin, et avec les informations qu'on recueille de manière continue, on va changer, alors il faut le faire de façon subtile, on va aménager, on va changer l'amplitude du champ oscillant appliqué au spin, on va corriger finalement ces fluctuations, et l'espoir, c'est de maintenir des oscillations de Rabi qui, finalement, persistent et ne s'amortissent pas. Alors, exactement comme dans le cas de l'avion, on ne va pas être capable de viser parfaitement une consigne. La consigne, évidemment, idéale, ce serait de maintenir les oscillations d'amplitude 1, mais ça, ce n'est pas possible. Il faudrait pouvoir avoir une observation parfaite du système. Il y aura toujours des pertes. Et donc, on va avoir des oscillations de Rabi persistantes, mais leur amplitude, évidemment, sera toujours inférieure à l'amplitude maximum. Et l'amplitude de ces oscillations de Rabi persistantes, c'est ce qu'on appelle la fidélité du processus de contre-réaction. Si le processus de contre-réaction est le plus il est parfait, plus, évidemment, la fidélité sera 1. Donc, je m'empresse de dire que, bien sûr, une oscillation d'amplitude 1 serait très spectaculaire. On aurait réalisé une mesure absolument parfaite du bit quantique, mais ce n'est pas nécessaire. Pour les applications pratiques, même si l'oscillation, est de 70%, ça serait extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que, donc, on a ici le moyen de lier une oscillation, une fréquence d'oscillation, à une amplitude RF. Il y a un phénomène qui s'appelle l'effet Josephson alternatif qui lie à une fréquence RF, une tension continue. Donc, c'est d'ailleurs la base du standard de tension de nos jours. Le volt est défini à partir d'une certaine fréquence d'oscillation d'un système Josephson. Mais ça c'est la tension continue qui est reliée à une fréquence. Ce phénomène des oscillations de Rabi persistantes est extrêmement important parce qu'il permet de relier une fréquence à une tension, une amplitude de tension alternative. Donc de calibrer avec une très grande précision un générateur de micro-ondes. Alors les générateurs micro-ondes sont déjà très bons. Les fluctuations d'un générateur micro-ondes sont bien inférieures à ceux d'un laser. On peut compter sur un bruit sur l'amplitude d'environ 10-6 par racine de Hertz, ce qui est déjà très bon. Mais dans beaucoup d'applications, on souhaiterait une stabilité encore plus grande. Donc, ce phénomène des oscillations de Rabi persistantes est un peu la clé à de nouveaux développements dans les techniques, de mesure qui vont dépendre de la stabilité d'une amplitude micro-ondes. Donc, exactement comme on veut pouvoir stabiliser des tensions continues, stabiliser des tensions alternatives aux fréquences micro-ondes serait très intéressant. Voilà pourquoi je me suis concentré sur ce phénomène. Il illustre les concepts du contrôle quantique, mais il est aussi, il a une possibilité d'application. Il a une caractéristique aussi très intéressante, c'est que on ne cherche pas ici à stabiliser un état propre de l'Hamiltonien. C'est un état dynamique de l'Hamiltonien, ce qui représente une difficulté supplémentaire. Ça nous rapproche, là, on n'est pas, si on réalise cette expérience, ça nous rapproche de la correction quantique d'erreur. La correction quantique d'erreur, c'est encore plus que ce contrôle, puisque la correction quantique d'erreur, il faut stabiliser non pas un état dynamique, mais un ensemble, une variété continue d'états dynamiques. Donc c'est encore plus fort, mais stabiliser un état dynamique, c'est déjà un pas très important pour la correction quantique d'erreur et donc la possibilité de réaliser un ordinateur quantique. Voilà pour les applications. Alors, un système de contrôle, contrôler un système quantique, c'est en fait très semblable à le contrôle d'un système classique. Donc, là, je vais parler du principe du contrôle en général, et pour l'instant, je ne vais pas spécifier s'il s'agit d'un système classique ou quantique. Donc, on va supposer qu'on a un système dynamique. Il a un certain nombre de variables, mais une de ces variables est z de t, qui est la variable que l'on mesure. Donc, cette variable va être traduite ici par un environnement. L'environnement va être constitué d'un certain nombre de degrés de liberté incontrôlés qui vont perturber le système. Dans le cas de l'avion, c'est l'environnement, mais c'est les courants, les turbulences. Là, le traducteur, c'est finalement l'altimètre, ce qui va, disons, par exemple, traduire une pression en une altitude. Et ici, donc dans cet environnement, on a un détecteur qui est une espèce d'organe qui décide, qui traduit en nombre, finalement, une grandeur physique. Il faut... Le contrôle demande à un moment donné qu'on ait une information, donc on ait un nombre. À partir de ce nombre, on va estimer, on va faire une estimation des paramètres du système. Donc petit z, c'est la variable qui l'image de cette variable z de t. Donc on déduit une espèce de probabilité. Le petit indice ici, R, dans toutes mes transparences, ça va être, ça désigne le fait qu'il s'agisse ici d'une grandeur conditionnelle qui dépend justement d'une mesure. Tout ce qui contient un petit R en indice correspond à une réalisation particulière du mouvement et correspond à une valeur un paramètre conditionné sur le résultat d'une mesure. Lorsque la même quantité n'a pas de petit r, il s'agit plutôt d'une grandeur moyenne. Donc l'estimateur, à partir de ces valeurs, les valeurs données par le détecteur, les valeurs présentes et les valeurs passées, va nous permettre d'estimer la probabilité que le système est dans un certain état. Et il envoie ces informations à un actuateur qui va finalement corriger le système à partir d'une certaine consigne. Donc voilà, et donc le système forme une boucle. Donc cette boucle complique beaucoup l'analyse du système puisque finalement toutes les parties sont reliées avec toutes les autres parties. Par cette boucle, finalement, tout est relié à tout. C'est ce qui fait que la médecine est très compliquée, puisque dans le corps humain, enfin dans n'importe quel organisme vivant, il y a une foule de systèmes de contrôle comme celui-ci, qui avec des boucles imbriquées. Et c'est très difficile, une fois que le système est en marche, de séparer les causes des effets. Puisque, par exemple, l'actuateur ici va effectuer une certaine modification du système, mais il est lui-même affecté par le mesureur, etc. Donc un système contrôlée est un système plus compliqué qu'un système qui fonctionne en boucle ouverte, dans lequel, en quelque sorte, il y a pas de, les flèches ne se rebouclent pas. Alors, j'attire votre attention sur le fait que les degrés de liberté de l'environnement font deux types de bruit. Il y a deux types de bruit dans le système. Un premier bruit qui, finalement, affecte la dynamique, qui perturbe la dynamique, et puis un bruit qui aussi modifie les données, modifie les mesures, rend les mesures bruyantes. Alors, dans un système classique, en général, ces bruits sont complètement absolument décorrélés. Si vous imaginez l'image de l'avion, la turbulence qui finalement change les forces sur l'avion peut être complètement indépendante du bruit électronique, par exemple du bruit Johnson dans l'altimètre, qui il y a une résistance qui finalement va mesurer la pression et le bruit de l'électronique de la mesure, le bruit des électrons qui va donner une certaine flou sur l'altitude n'a pas grand-chose à voir avec le bruit qui perturbe l'avion. Mais dans un système quantique, on va être confronté à une situation beaucoup plus subtile. Alors, avant d'aborder le système quantique, je vous rappelle le statut des différentes grandeurs ici. Donc, ici, on a une variable dynamique. Ici, on a un nombre, c'est de l'information. Ici, c'est une densité de probabilité. Et puis, l'actuateur, ce qu'il fait, c'est une transformation du système. L'actuateur modifie l'Hamiltonien, modifie les paramètres de l'Hamiltonien du système. Donc, ce statut des différentes grandeurs ne change pas du tout lorsqu'on passe du système classique au système quantique. Ce qui s'y change simplement, c'est que les variables dynamiques ici sont plutôt des opérateurs, et puis la transformation ici, c'est finalement une transformation unitaire. Mais enfin, il n'y a pas véritablement à ce stade de différence entre le système classique et le système quantique. La grande subtilité du contrôle quantique, c'est que ces deux bruits à température nulle, et si le rendement de l'amplificateur est 1, si on a réalisé un amplificateur fonctionnant à la limite quantique, rajoutant un bruit qui n'est que le bruit impliqué par la relation d'incertitude d'Heisenberg, le bruit 1 et le bruit 2 deviennent identiques. Ça, c'est quelque chose de tout à fait particulier. En effet, le bruit sur le système, finalement, arrive par l'intermédiaire de la mesure. En quelque sorte, le schéma du bruit, ce n'est pas qu'il y a une flèche indépendante ici, c'est que finalement, cette flèche-là est bidirectionnelle, et puis cette flèche est bidirectionnelle, et tout le bruit sur le système arrive par le bruit du système de mesure, ou le bruit qu'on récupère au moment de la mesure, c'est aussi un bruit vu par le système. Alors, il y a une phrase qu'aime bien Sacha Korotkov pour décrire cette situation, c'est que le système, dans cette situation, a un comportement aléatoire, certes, mais il fait exactement ce que l'on voit. Donc, oui, c'est vrai, il y a des composantes stochastiques dans le mouvement, mais le système n'obéit à obéit exactement à ce que l'observant de mesure voit. Donc, c'est pas grave, hein, puisqu'on voit ce qui se passe, donc on peut corriger. Ça explique tout à fait le fait que ces deux bruits deviennent corrélés, parfaitement corrélés, explique pourquoi, en principe, avec un instrument de mesure tout à fait idéal, malgré le principe d'incertitude, eh bien, on peut stabiliser un état avec une précision arbitrairement grande. Voilà, donc Ça, c'est la grande subtilité du contrôle quantique. Alors, encore une fois, donc il y a plusieurs façons de contrôler un système quantique. Donc, Serge Haroche, dans ses leçons de cette année, a parlé du maintien d'un état de Fock, d'un résonateur. C'est un travail réalisé par son équipe et par l'équipe de Pierre Rouchon. Et donc, ça commence à marcher. Bon, j'insiste sur le fait que ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est le maintien d'un système dynamique et non pas d'un résonateur, mais d'un spin. Donc, il y a des grandes similarités entre le sujet et je vous invite à aller sur le site de Serge Haroche et de voir cette réalisation du maintien d'un état de Fock, mais donc ce dont je vais parler est assez différent. Je reprends, le dispositif un peu modèle dont j'ai parlé pendant ce cours. Donc, on a un qubit qui peut être un qubit supraconducteur qui peut être un qubit en flux ou en charge ou en phase. Ça n'est pas très important. Il est observé par un instrument de mesure qui est constitué d'un résonateur lui-même couplé à un amplificateur limité quantiquement. Et la dernière fois, donc, on avait indiqué l'Hamiltonien effectif du qubit. Voilà l'Hamiltonien effectif du qubit. Voilà l'Hamiltonien de la cavité. Il y a un couplage de type QND, c'est-à-dire ce couplage paramétré par ce qui ici commute avec l'Hamiltonien du résonateur et l'Hamiltonien du qubit. Donc le principe de la mesure est très simple. On envoie un train d'onde qui va pénétrer dans le résonateur et qui va rebondir. La présence du qubit couplé au résonateur va déphaser ce train d'onde et le déphasage va nous indiquer si le système est dans l'état up ou down. Donc c'est ce que montrent ces courbes. Ces courbes montrent le déphasage en fonction de la fréquence du train d'onde envoyé. Et à la fréquence de résonance du système, du résonateur, on a un écart de phase qui est maximum et qui va être donné là. Donc suivant qu'on est dans l'état excité ou fondamental, on aura deux phases possibles qui sont données ici, qui font intervenir le rapport entre ce paramètre de couplage et kappa, qui est la durée de vie des ondes la durée de vie des ondes stationnaires dans le résonateur. Alors là, ici, je précise un peu plus en détail ce qui va se passer dans cette expérience de réflexion. Donc, tout d'abord, l'état du qubit va être spécifié par une matrice densité. Et comme vous le savez, pour un spin ami, la matrice densité peut être représentée par ce vecteur à trois dimensions, qui est le vecteur de Bloch. Pour un état pur, le vecteur de Bloch va être sur la sphère. Si l'état est impur, le vecteur sera à l'intérieur. Donc, cette mesure nous mesure de façon continue la projection suivant Z du système. Et la façon dont ça se passe est schématisée ici. J'ai représenté le train d'onde qui est envoyé vers le résonateur et qui rebondit. Une fois qu'il est passé par le résonateur, le train d'onde est modulé en phase, puisque finalement l'état du qubit ne fait que modifier la fréquence du résonateur. Il n'y a aucune absorption micro-ondes, la mesure est complètement dispersive, parce que la fréquence envoyée, ici la fréquence verte, est largement différente de la fréquence de transition entre E et G. Donc aucun photon ici dans ce train d'onde n'est absorbé par le qubit, et en principe si tous les composants sont idéaux, il n'y a pas de photon perdu en route non plus. Tout ce qui se passe, c'est que la fréquence du signal peut éventuellement changer au cours du temps, en tout cas au fur et à mesure de l'acquisition de la composante suivante Z. En quelque sorte, il faut s'imaginer la chose de la façon suivante. Donc, il y a un déphasage, il y a une phase instantanée dans ce système, et cette phase nous mesure la projection du qubit suivant Z. Les équations sont les suivantes. Donc, on prend ce signal et par une détection ici homodyne ou hétérodyne, peu importe les détails, on va être capable de mesurer la composante en quadrature. Cette composante en quadrature contient l'information sur la modulation de phase. C'est elle qui porte toute cette information, donc c'est ce que j'appelle Q. Et au bout d'un temps Tm, qui est le temps de la durée de la mesure, eh bien, on aura accumulé cette composante hors phase. Voilà, la composante hors phase est donnée par ce produit de convolution ici. Et l'accroissement au cours du temps de la composante hors phase, de la composante en quadrature, ça va être le produit de la valeur de Z ici, instantanée du qubit, la projection de Z, fois le sinus de cet angle. Et cette quantité ici, en régime permanent, une fois que le train d'onde va être établi, cette valeur moyenne ici va être une constante. Donc, une façon de... Oui. Alors, on peut dire qu'en quelque sorte, ce système fait une mesure instantanée de la composante suivant Z du spin. Mais une mesure, attention, parce que nous allons voir que cette mesure est extrêmement bruyante. C'est, bien sûr, si on mesure parfaitement, imaginez la chose suivante, imaginez que ce spin S soit sur l'équateur, qu'on ait une superposition cohérente d'état up et down. Pendant un certain temps dt, on faisait une mesure parfaite de Z, bien sûr, on projette à ce moment-là le vecteur de Bloch soit dans l'état up ou soit dans l'état down. Là, on fait une mesure continue, c'est-à-dire on considère que pendant ces intervalles, le nombre de bits d'informations acquis sur le système est très inférieur à l'unité. On récupère par unité de temps, par incrément de temps, une quantité d'informations très inférieure à un bit. Par contre, pendant ce temps de mesure, on peut imaginer que le signal est suffisamment long et que les pertes sont suffisamment faibles pour qu'en tout, on ait la potentialité d'acquérir, par exemple, 10 ou 100 bits d'information. C'est-à-dire que, par exemple, pendant la durée de cette impulsion, si on applique un champ extérieur et qu'on modifie l'orientation du qubit, eh bien, on pourra acquérir, 20, 100 bits qui nous donnera l'histoire de cette évolution au cours du temps. N'hésitez pas à poser d'autres questions, c'est extrêmement important. Oui. Oui. On va reprendre l'équation stochastique et on va discuter tout ça en détail. On va bien spécifier quel est le bruit ici. Vous allez voir, il y a des équations très précises qui régissent ce qui se passe. Donc j'introduis pour l'instant, j'introduis un peu les lettres à ce stade. Donc le premier symbole dans la mesure que j'ai indiqué, c'est la composante, intégrée en quadrature. C'est quelque chose qui s'acquiert progressivement au cours du temps. Cette variable Q, c'est la composante hors phase du signal reçu. Mais si on prend sa dérivée, son taux d'accroissement, dq sur dt, on a cette variable zeta de r qui nous donnerait, si la mesure n'était pas bruyante, atrocement bruyante en fait, ça nous donnerait dans une version classique, ça nous donnerait la valeur, la projection de z. Mais Étant donné que la mesure est extrêmement bruyante, donc on a des oscillations féroces. Même ici, elles ont été représentées avec une convolution d'une fonction de filtre. En fait, sans fonction de filtre, plus, disons, le bruit, plus on va augmenter la bande passante, plus le bruit va être grand, bien sûr, puisque à chaque instant, le système de mesure reçoit un bit aléatoire. Donc on a de grandes fluctuations. Par contre, la composante intégrée, si on intègre, disons, la surface sous la courbe, eh bien, la zone hachée correspond à cette valeur de la composante en quadrature de l'ensemble de cette onde verte. Hein. Donc, la surface ici sous la courbe, très bruyante, nous donne la composante. Donc, ça, c'est un mode, cette onde, c'est un mode du champ. Et finalement, la surface sous cette courbe nous donne la valeur de la composante hors phase de ce mode. Hein, c'est bien. Voilà, donc ça va être la composante hors phase de l'impulsion de mesure. Et l'indice R, ça correspond à une réalisation particulière. Et voilà la relation entre l'accroissement de cette composante hors phase et la valeur de la composante Z de la matrice densité, mais conditionnée par la mesure. Et un terme de bruit. Un terme de bruit qui est d'autant plus grand, ce taux ici est petit. Alors, cet accroissement, cet incrément de Wigner est quelque chose qui, a ses propriétés suivantes. En moyenne, une fonction aléatoire qui vaut 0, mais dont le carré est exactement donné par dt. C'est, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est le bruit, un bruit blanc idéalisé. Et la valeur moyenne sur toutes les réalisations de cette composante Z est équivalente à la moyenne d'ensemble de la matrice densité du système. J'insiste bien sur la différence. Là, il faut bien distinguer entre la valeur de la composante Z de la matrice densité conditionnée par l'observation et la moyenne d'ensemble Z. Pour donner une espèce de comparaison, ce Z de T, c'est un peu un sondage sorti des urnes. On a une fonction, on a effectué une mesure sur le système et on interroge les votants sur leurs nouvelles intentions de vote. Alors que ça, c'est un sondage réalisé, mais sans vote effectif. Un peu le... J'attire bien, une erreur à ne pas commettre, c'est de comprendre Z comme quantiquement, cette variable Z n'est pas vraiment une variable dynamique au sens habituel. Ça reste le paramètre d'une distribution de probabilité. Donc, comme une intention de vote. Une intention de vote, c'est un concept probabiliste. Votre intention de vote, ce n'est pas exactement ce que vous faites lorsque vous êtes dans l'urne. Effectivement une mesure réalisée sur une réalisation particulière. Et ça, c'est notre connaissance statistique du système conditionnée quand même par le résultat des mesures précédentes. mais sur un seul système. Voilà. Donc, si on regarde l'équation maîtresse du système, c'est-à-dire celle qui va nous donner en moyenne l'évolution du vecteur de bloc, là on ne se préoccupe pas du bruit, eh bien on a une équation maîtresse tout à fait ordinaire, mais dans laquelle, en plus de la relaxation qui est donnée par ce terme gamma 1 et gamma phi, ça c'est les termes de relaxation ordinaire de l'équation de bloc, qui correspondent au temps T1 et au temps T phi, eh bien, on a un déphasage, une contribution supplémentaire au déphasage qui implémente finalement la relation d'incertitude d'Heisenberg, puisqu'on mesure le système, puisqu'on mesure la composante suivant Z du système, on le déphase. Donc on accélère le déphasage. Et cette accélération se fait avec un taux, donc gamma M, c'est le taux d'acquisition d'informations du système, hein, c'est défini précisément comme le rapport, la vitesse d'accroissement du rapport signal sur bruit. Eh bien, on déphase, le déphasage du système se passe avec une rapidité, une vitesse dans ces équations qui est la moitié de ce taux de mesure. On va voir que ce rapport entre le déphasage induit par la mesure et le taux d'acquisition, le taux d'acquisition d'informations sur le système sont absolument nécessairement reliés. Ce facteur 1,5 est absolument universel. C'est le même facteur que ce que vous avez dans delta x delta p égale h bar sur 2. C'est exactement, on va voir dans un instant comment vous avez une espèce de relation fondamentale, universelle, entre le déphasage induit par la mesure et le taux d'acquisition d'informations dans le système. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai repris cette équation maîtresse, écrite de manière assez générale. Elle est quand même, elle suppose un certain nombre d'hypothèses simplificatrices qui ne sont pas essentielles. Hein. Donc, on a une dynamique markovienne, le bruit est blanc, on a fait l'approximation de l'onde tournante et on suppose qu'on est à température nulle. Et tout ceci se traduit en termes concrets par ces équations de bloc beaucoup plus ordinaires dans lesquelles on reconnaît donc l'influence du T1 et du T phi. Donc, vous voyez, le déphasage induit par la mesure nous donne un terme de relaxation proportionnel à x et à y. Donc ça ramène le vecteur de bloc est ramené suivant l'axe z. Hein, est forcé par cette relaxation induite par la mesure, par ce déphasage induit par la mesure, pardon. Donc ceci nous force le vecteur de bloc à pointer suivant l'axe Z. J'ai ajouté dans ces équations un terme de Rabi. Nous allons voir, nous voulons stabiliser les oscillations de Rabi. Donc là, j'ai modifié les équations de bloc habituelles pour inclure ce terme de forçage de Rabi. Donc ces deux termes ici correspondent à ce commutateur avec l'hamiltonien du qubit. Donc, voilà les questions qu'on va se poser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en temps réel, acquérir l'information sur le qubit, mesurer cette composante Z. Ça nous donne cette valeur, zeta de R, qui est l'image, qui est l'accroissement instantané de la composante hors phase, qui est censée représenter, qui, dans un système classique idéal, nous donnerait la valeur de la composante suivant Z du qubit. L'ordinateur nous permettre, à partir de la valeur mesurée et de l'histoire de la mesure, va nous dire comment corriger le qubit. Et donc là, ce générateur va modifier la fréquence de Rabi. Donc, la question qui se pose, c'est comment exactement doit être cette fonction de filtre, comment on doit finalement, comment on doit pondérer les différentes valeurs des mesures dans le passé, est-ce qu'on peut avoir un délai, et puis une fois qu'on a réalisé cette fonction de filtre, eh bien finalement, quelle va être la fidélité du système. Et pour prévoir tout ceci, il faut avoir une équation plus puissante que l'équation maîtresse. Il nous faut prévoir non pas la moyenne d'ensemble de la matrice densité sur toutes les réalisations, mais la valeur de la matrice densité conditionnée par le résultat de la mesure. Donc voilà ce qu'il faut. Le but de ces équations, c'est d'arriver à calculer en temps réel la matrice densité conditionnée par la mesure, donc la relation entre la matrice densité habituelle et cette nouvelle matrice densité, c'est que la moyenne sur toutes les réalisations de cette matrice densité rho de R redonne le rho habituel. Et l'équation auquel satisfait rho indice R, c'est l'équation maîtresse ordinaire, donc qui est ce premier terme. Le L ici est l'opérateur qui se trouvait à droite de l'équation précédente. Et il y a un nouveau terme, ici un terme de bruit. Un terme de bruit qui, en fait, correspond à ce qui est observé. dQ de R, c'est l'accroissement de ce qu'on a, l'accroissement du signal observé, moins ce qu'on déduit de toutes les mesures précédentes. C'est-à-dire, donc tout ce qu'on a mesuré jusqu'à présent nous a permis, par ce type d'équation, de prévoir la composante suivant Z de la matrice densité. On fait la somme, la différence entre ce qu'on observe et ce qu'on devrait avoir, en quelque sorte, et ceci nous donne un terme de bruit. Alors, l'importance de ce terme de bruit est crucial. Voilà, j'ai réécrit les équations de Bloch. Donc, finalement, on est en présence d'une équation un peu de type Langevin. On a un mouvement brownien ici. On va avoir un mouvement brownien sur la sphère de Bloch. Il y a deux types de termes dans ces équations. Le terme en vert ici correspond à... Le terme en gamma m sur 2 ici va correspondre à un déphasage. En moyenne, le vecteur de Bloch va rentrer à l'intérieur de la sphère. Mais de façon extrêmement élégante, ce terme de bruit va remonter le vecteur de Bloch et va tendre à ce qu'il soit sur la surface de la sphère. Donc ça crée une espèce d'équilibre. On peut dire que ce terme-là, dissipatif, correspond à l'extraction de l'information du qubit. Donc le système de mesure prélève de l'information sur le qubit, mais on redonne, le bruit de la mesure finalement redonne de l'information sur le qubit, et ce qui fait que pour des efficacités, l'efficacité état, c'est l'efficacité de la mesure, elle peut être unité, et quand état est égal à 1, eh bien cette équation au miracle en quelque sorte prévoit que le vecteur de Bloch reste sur la sphère. Donc l'information, il y a un bilan d'information nul, il y a autant d'informations rajoutées qu'extraites, et donc finalement le système, disons le vecteur de Bloch décrit par les composantes XR, YR et ZR sera un état qui restera pur. Et ce qu'on appelle trajectoire quantique, c'est précisément le point sur la sphère de Bloch qui correspond à ces quantités. Donc le but de cette équation, c'est de prévoir en temps réel une estimation de ce que va faire le système et de corriger le bruit dû à la mesure. Donc en fait, ces équations sont très précises et vont répondre à toutes ces questions. Elles précisent, cette quantité gamma m précise parfaitement ce qu'on veut dire qu'on dit que l'instrument de mesure acquiert de l'information, donc il donne précisément le taux d'acquisition d'information, et ce terme de bruit dans l'équation va donner le bruit en retour de l'instrument de mesure sur le qubit. Donc tout est parfaitement... toutes ces équations, en quelque sorte, sont remarquables. Elles indiquent tout ce que vous avez besoin de savoir. En fait, ces équations, c'est toute la mécanique quantique. Si vous connaissez ces équations, vous pouvez oublier l'équation de Schrödinger, vous pouvez oublier le postulat de la mesure. Tout est contenu, toute la mécanique quantique est contenue dans ces équations. Je le répète, c'est des équations extrêmement puissantes, c'est des équations de mouvement brownien, d'une évolution brownienne. La différence avec le mouvement brownien ordinaire, c'est que le terme de bruit, le terme de Langevin, la force de Langevin est non linéaire. Ici, le coefficient de diffusion, ici, l'intensité du bruit, dépend de manière non linéaire sur l'état du système, puisque vous avez le produit des composantes X et Z. Donc, par exemple, quand une de ces composantes, ici X ou Z, est zéro, ce terme de bruit devient zéro. Donc ça, c'est une situation assez nouvelle dans le mouvement brownien, parce qu'il s'agit d'un mouvement brownien qui peut devenir silencieux. Imaginez une particule qui se déplace dans un fluide, et à certains endroits, eh bien, la particule ne reçoit plus de coups de pied des molécules, donc elle devient immobile. Vous imaginez bien qu'elle va se bloquer dans cet endroit, ou du moins dans le voisin. Elle n'y arrivera jamais, parce que finalement, avant d'y arriver, la dynamique se sera ralentie, mais elle va tendre finalement vers des points bien particuliers. Eh bien, ces points bien particuliers, ça va être les états propres de la mesure. Et ça va expliquer, cette dynamique brownienne explique le fait qu'en mécanique quantique, le résultat de certaines mesures est quantifié. On trouve des fois que le résultat de la mesure se bloque à certains nombres, et tout en ayant, préservant une évolution complètement continue en temps. Donc ce type d'équation répond à beaucoup, beaucoup de questions que de nombreux physiciens se sont posées sur la signification de la mécanique quantique. Elle n'explique pas finalement l'origine du bruit. Ça reste la physique des siècles prochains. Mais en tout cas, c'est une description phénoménologique parfaitement précise de l'information qui est échangée entre le système et l'observateur. Alors, ces équations, évidemment, elles sont un peu complexes et assez abstraites. Et ce que je vous propose pendant 5 minutes, c'est de prendre un modèle, d'examiner un modèle qui permet de retrouver de manière semi-quantitative ces équations. Donc, c'est un modèle qui ne nous donnerait pas tous les coefficients dans cette équation parfaitement précisément, mais qui permet vraiment de comprendre la physique de ces équations. Alors, on va remplacer le système de mesure par un ensemble d'objets suffisamment simple pour qu'on puisse comprendre toute la physique. Alors, je vous ai représenté là le système que l'on va mesurer, c'est un spin. Donc, il est préparé a priori dans une superposition d'état up et d'état down. Donc les coefficients alpha et bêta sont les coefficients de la superposition. Ils sont reliés aux angles ici θ et φ qui donnent l'orientation du vecteur de Bloch. Et je précise ce que j'entends ici par z indice 0, c'est à l'instant initial la composante suivant z du vecteur de Bloch. Donc là, on suppose qu'on a préparé finalement au départ cet état. Il est parfaitement pur, on prépare le système dans cet état. Après, on va le mesurer. Alors, le mesureur va être constitué par un ensemble de spins qui vont arriver de la droite. On en dispose de toute une série de spins préparés dans l'état X ici. Donc, il y a absolument, c'est une expérience parfaite, on dispose disons, imaginez 1000, 10 000 spins, un demi préparé comme ça, orienté suivant X. Ils viennent de la droite, ils vont interagir pendant un certain temps avec ce spin et ils vont repartir. Donc ça va modéliser de manière simplifiée un peu les photons qui sont contenus dans le pulse de mesure. Dans ce pulse vert, il y a des photons, bon, c'est des bosons, c'est un système un peu subtil avec, disons, une mathématique un peu complexe. Je simplifie tout et je remplace en quelque sorte chacun des photons par un spin. Et donc tous ces spins arrivent de manière régulière et viennent visiter le spin pendant un temps bien spécifié, un temps tôt. Hein. Donc pendant ce temps tôt, l'Hamiltonien, il y a un Hamiltonien de couplage entre ce spin vert de la mesure et le spin violet qu'on cherche à mesurer. Et c'est un Hamiltonien de type QND. Hein, il fait juste. L'Hamiltonien consiste dans le produit des projections suivant Z de ces deux qubits. Un Hamiltonien d'Ising, on ne peut pas faire plus simple. Hein. Donc, l'action de cet Hamiltonien pendant le temps tôt, bah, c'est de faire tourner un peu les spins. Hein. Une façon de voir cette interaction, c'est que si le spin violet était ordonné suivant plus Z, le spin vert va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si par contre le spin violet est down, le spin vert tourne dans l'autre sens. Voilà, donc comme vous voyez, comme finalement ce spin violet est plutôt suivant Z, eh bien, le spin vert tourne dans le sens inverse des aiguilles du monde. En fait, on ne peut pas véritablement représenter ce système composite par des vecteurs de bloc parce qu'il y a une intrication partielle entre les deux vecteurs. C'est pour ça que vous voyez que le vecteur ici ne touche plus l'équateur. C'est une façon un peu graphite, un peu très imparfaite de représenter. Ce que j'ai voulu représenter ici, c'est le fait que les systèmes deviennent partiellement intriqués. Une mesure QND projective, ça serait une mesure dans laquelle l'angle ici de rotation serait exactement pi sur 2. Si lorsque le spin était suivant Z, vous tourniez exactement de pi sur 2, la mesure devient la mesure ordinaire projective, parce que c'est facile à comprendre. Si le spin est suivant plus Z, à ce moment-là, vous tournez, ce spin vert tourne et pointe ici vers la droite. Si le spin violet pointe vers le sud, à ce moment-là, on tourne dans l'autre sens, il pointe vers la gauche, et donc les deux états sont orthogonaux. Si on mesure le spin vert, on aura un renseignement parfaitement précis sur la composante suivant Z. Mais ici, on effectue une mesure quasi continue, donc on a l'angle ici est un angle d'ordre epsilon, donc beaucoup très inférieur à pi sur 2. On acquiert chaque spin visiteur ici va acquérir sur le spin visité une petite quantité d'information bien inférieure à un bit. Donc le protocole, après la visite, on mesure de manière projective, là la mesure n'est pas projective sur le spin violet, mais elle l'est sur le spin vert. Et là, on force le spin vert à se déclarer soit suivant plus Y, soit suivant moins Y. J'ai donné le cas ici où on va trouver plus Y. Et donc, on enregistrera plus 1. Voilà, le système, cette variable zeta, dans cet exemple, va, pour ce cas-là, nous donner plus 1. Mais on pourrait très bien, lors de cette projection, trouver un autre résultat, on pourrait trouver moins 1. Hein, il n'y a que deux, il y a en fait, dans ce cas-là très simple, il n'y a que deux résultats possibles. Et donc, vous voyez que l'enregistrement de la mesure, les zeta, l'ensemble des zeta, c'est un ensemble de nombres plus ou moins 1. Donc, vous voyez, ça va être très bruyant, puisque, en fait, le système. Donc l'appareil de mesure va nous donner une série de pièces de monnaie finalement qui sont soit pile soit face, et c'est la fausseté de la pièce qui nous donne qui nous donne la composante suivant Z. Je reprends, hein. C'est très important. Donc, le spin est préparé suivant X et va faire une toute petite rotation. Donc, lorsqu'on va le mesurer suivant Y, il va presque être nous donner une fois sur deux, pile ou face, la différence entre les probabilités d'obtenir pile ou face va être très faible. Il y a juste une. Quand on dit que ce spin vert a acquis peu d'informations sur le spin violet, c'est que la fausseté de la pièce ici qu'il représente et s'écarte très peu est très faible. La pièce est presque juste. Voyez que la mesure, donc, chaque mesure individuelle est très bruyante et ne récolte qu'une très petite part, très petite information. Mais on est aussi, on va aussi la répéter un très grand nombre de fois. Donc, on va effectuer, on a toute une réserve, on a 1000, 10 000 spins, oui. Ah, non, excuse-moi, je me suis peut-être mal exprimé. On pourrait spécifier la force du couplage et le temps d'interaction pour que la rotation soit exactement de pi sur 2. Si on règle les choses de cette façon, la mesure est parfaitement projective. C'est-à-dire que chaque spin vert acquiert exactement un bit. Dans les autres cas, en fait, non, on n'aura qu'une information partielle. Donc c'est assez intéressant de voir que ce protocole incorpore la mesure projective ordinaire comme cas limite. C'est simplement par continuité. Donc on va toujours travailler de toute façon avec des epsilon très faibles. Donc vous voyez d'ailleurs comment le nombre total de bits qu'on va acquérir par le système, ça va être un produit. Si vous voulez, on répète cette mesure un nombre grand n de fois. Le nombre de bits qu'on aura acquis sur le système, ça sera n fois epsilon, qui peut, lui, bien que peut être supérieur à 1. On peut acquérir en continu sur le spin, ici, que l'on ne détruit pas un nombre de bits supérieur à 1 et surveiller son évolution. Mais pour être dans le cas d'une mesure continue, il faut que epsilon soit très petit et n très grand. Alors, ce qui est très bien ici, c'est qu'on voit exactement dans cet exemple, ça permet de comprendre bien le flot d'informations. On voit bien que chaque spin visiteur acquiert une information qui est donnée par finalement ce facteur Q, sinus epsilon, ça va caractériser le changement finalement dans la projection du qubit mesuré. Ça va nous donner, disons, la fausseté. Ce paramètre Q, c'est vraiment la fausseté de la pièce. Et le rapport signal sur bruit, ça va être bien. Le rapport signal sur bruit, je vous rappelle, c'est une quantité qui est énergétique, c'est le carré des signaux, c'est le carré du signal divisé par la variance du bruit. Et donc ici, on aura nq carré sur t, qui nous donne finalement le taux, ce gamma m, c'est le taux d'acquisition d'informations. Que se passe là, j'ai décrit ce qui se passait du système, du point de vue du système de mesure, mais qu'est-ce qui va se passer pour le système mesuré? Eh bien, il y a, lorsqu'on regarde ces formules ici, lorsqu'on calcule ce qui se passe lors de la projection du spin vert, eh bien, il y a une petite modification de l'état du spin violet. Cette projection partielle qu'on a fait ici modifie le spin violet, mais l'état reste pur. C'est simplement que l'angle θ, ici, que fait le spin avec l'axe de z, a un petit peu changé. On a eu, voilà un peu l'évolution brownienne. L'évolution brownienne va se faire sur un grand cercle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de... il n'y a pas du tout de force aléatoire tangentielle ici sur, disons, dans le plan XY. Toute la force aléatoire nous force le spin mesuré évoluer sur un grand cercle. Ça, c'est un peu inattendu, oui. Pour l'instant, c'est sans rétroaction. Je décris la rétroaction, ça va être facile parce que comme on va être capable de prédire ce que fait finalement ce vecteur de bloc en fonction des résultats acquis par la mesure, on va savoir exactement pouvoir corriger. En fait, imaginez la chose suivante. Vous voyez, c'est assez facile. Suppose que vous détectez plus 1 ici. Eh bien, vous savez grâce à des équations que finalement, ce spin violet va subir une petite pichenette vers le bas. Si par contre, vous détectez moins 1, eh bien, la pichenette, elle est donnée vers le haut. Donc, vous voyez bien que, certes, ce mouvement ici va être diffusif, mais vous connaissez exactement les incréments de ce mouvement diffusif. Simplement, l'information que vous récoltez sur la pièce vous donne les petites déviations. Donc, si vous êtes capable de suivre très correctement le bruit de votre système de mesure, eh bien, vous connaîtrez à chaque instant l'état du système. Oui. Alors oui, bien sûr, si on partait d'une position complètement inconnue, ça ne nous aide en rien, effectivement, d'avoir cette information. Mais si on a déjà une information, et le système, en quelque sorte, un système de bootstrap, si on commence à connaître de l'information, eh bien, on peut suivre, comme on connaît les incréments, on connaît les nouvelles positions. Si on n'a absolument aucune connaissance au départ, l'enregistrement de ces différentes mesures ne nous donne rien. Mais si on commence à connaître quelque chose, eh bien, on va en quelque sorte... Ça vous permet de nous en savoir plus. Alors, ce qui est très spectaculaire ici, c'est que, donc, à partir du résultat de la mesure, on va pouvoir faire une mise à jour. Donc, on peut voir cette équation maîtresse stochastique comme la mise à jour des informations qu'on a sur la matrice densité. En fait, c'est très simple. Connaissant la valeur de la mesure, ici, à la mesure numéro K, eh bien, et connaissant la matrice densité à l'instant K-1, au coût K-1, on va pouvoir déduire la nouvelle valeur de la matrice densité. C'est ça l'esprit de cette équation stochastique. Oui.
Et Michel, le fait qu'il y ait au milieu...
Ce qui surprend beaucoup, c'est que le mouvement brownien se fait sur un grand cercle, comme ça, mais que la phase initiale du spin est conservée. Mais ça, c'est normal, puisque l'hamiltonien d'interaction entre les spins visiteurs et les spins visités ne fait intervenir que l'axe Z. Donc il n'y a rien qui brise la symétrie de rotation. Donc le mouvement, finalement, à chaque instant, le spin visité a un état pur, et cet état pur se promène de façon brownienne entre le pôle sud et le pôle nord. Et alors, vous voyez, pourquoi finalement la mécanique quantique donne des résultats discontinus ? Pourquoi il y a une certaine discontinuité en mécanique quantique ? Pourquoi il y a une certaine discrétisation ? Mais c'est que cette équation d'évolution a des points attractifs. Vous voyez que si jamais zk-1 est égal plus ou moins 1, c'est-à-dire si on était arrivé au pôle, eh bien on y reste. Parce que, vous voyez, si on a 1 ici, eh bien, le numérateur est égal au dénominateur. Même chose si on a moins 1. Donc, c'est un mouvement brownien sur la sphère, mais avec des points attracteurs. C'est ce qui nous explique pourquoi, lorsqu'on mesure un spin, 1,5, eh bien finalement, dans certaines conditions, on va le trouver soit pointant up, soit pointant down, bien qu'il s'agisse d'un objet qui soit essentiellement continu. Hein, là, on sait la fonction d'onde, l'état du qubit est une variété continue. Pourtant, lorsqu'on le suit, lorsqu'on va le suivre son évolution, on va le trouver ancré à certaines valeurs. Oui. Oui.
Mais ça, ça ne nous dit pas où il est, parce qu'on ne sait pas où il était au départ.
Si on était... Oui, mais attends, tu vas voir. Oui, bien sûr, si on ne savait pas où il était au départ, on peut mesurer comme ça l'infini, on ne saura toujours pas où il est. Oui, mais regarde ce qui se passe. Donc, si on accroît la force de la mesure, donc on mesure, et cette équation nous dit que tôt ou tard, on va finir par arriver au pôle. Une fois qu'on sera arrivé au pôle, à ce moment-là, la pièce deviendra. La fausseté de la pièce sera constante. On pourra s'apercevoir de sa fausseté. On pourra accumuler comme ça un grand nombre de. Si elle est fausse d'1%, on fera, disons, 10 000 mesures et on aura une pression suffisante. On saura que, oui, le système est bien au pôle. Et maintenant, on sait que. Dans quel état il est. Donc maintenant, si on le tourne, on saura où il est. Donc finalement, on est bien capable, par ce système, d'un moment donné, de savoir où est le système et d'embrayer l'équation. Donc même si effectivement on vous donne un spin dans un état complètement inconnu, en le suivant de cette façon, et si vous êtes capable de suivre parfaitement de cette façon et d'agir sur lui de façon déterministe, eh bien, à un moment donné, vous pouvez embrayer les équations et finalement connaître l'état du système. Oui. Alors, disons, ce qui va se passer, c'est que donc, la position initiale va être oubliée et à un moment donné, on va être bloqué, soit vers le haut, soit vers le bas, mais on pourra le mesurer parce que à ce moment-là, la série des zeta, la série temporelle des zeta aura une fausseté bien déterminée, et donc en faisant un certain nombre de mesures, eh bien, on finira bien par savoir si le spin est up ou down. À ce moment-là, une fois que cette information est acquise, on peut agir, on peut mettre une force déterminée suivant x ou suivant y. Appliquer un couple au spin et le préparer dans l'état qu'on veut. Donc, on voit bien quand même qu'à un moment donné, on va se rendre maître du spin. Ah oui, bien sûr, c'est la même chose. Bien sûr, je pourrais. Ça, c'est effectivement une objection qu'on adresse souvent. On se dit, mais oui, effectivement, si on faisait une mesure. Pourquoi une mesure, s'embêter avec ces mesures continues ? Il n'y a qu'à faire une mesure. Projective. Bon, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la mesure projective n'existe pas vraiment. Il n'y a que des mesures continues. En réalité, tous les appareils de mesure sont véritablement continus. On les décrit comme... une mesure projective, c'est l'itération d'une mesure continue. C'est une mesure comme celle-ci conduite à son terme. Hein. Donc, c'est quand même... Et puis... il y a aussi un autre intérêt de suivre en direct le système, c'est que le problème de la mesure continue, de la mesure projective, c'est que on perd du temps. C'est-à-dire que le fait de suivre le système en continu évite de perdre beaucoup de temps si le taux de relaxation est très faible. Le problème de la mesure des protocoles ordinaires, c'est, oui, vous faites une mesure continue, et projective, et puis votre spin devient soit up, soit down. Et après, on le corrige par des grandes impulsions. Mais il faut, en fait, c'est sur le plan du temps passé, il vaut mieux, disons, suivre le système au fur et à mesure, plutôt que d'attendre qu'il se bloque dans un état et puis de recommencer à zéro. C'est une question d'efficacité, finalement. Oui.
Est-ce qu'à partir de
cette équation... Oui. Alors, effectivement, c'était des équations qui supposent que l'observation est idéale, mais on peut, d'une certaine façon, récupérer les autres erreurs, oui. On ne pourra pas stabiliser un état avec une fidélité parfaite, donc on sera condamné à avoir un vecteur un peu à l'intérieur de la sphère de Bloch, mais c'est une question de compétition. En fait, en quelque sorte, les spins visiteurs interagissent avec le spin visité à un taux qui est très supérieur, si la prise d'information par la mesure se fait avec un taux très supérieur à celui du taux d'information envoyé vers les degrés de liberté incontrôlés, eh bien, on pourra quand même stabiliser l'état avec une grande fidélité. Pour spécifier les choses, eh bien, si on voit bien que s'il y a le taux d'information est équivalent, si la vitesse d'acquisition de l'information contrôlée sur le système est équivalente à l'information perdue de manière incontrôlée, eh bien, on aura une fidélité en gros de 50%, quoi. C'est une règle, disons, simple, c'est que la fidélité va être en quelque sorte donnée par le rapport entre le taux d'information perdue de manière contrôlée et le taux perdu de manière incontrôlée. Ces équations, disons, l'intégration correcte de ces équations permettent de spécifier les choses de manière beaucoup plus quantitative que ce que je viens d'indiquer, mais c'est un peu une règle approximative. Alors, ce lien entre le déphasage et le taux d'acquisition de l'information, on peut le voir comme ça. Alors finalement, puisque le phi n'est pas affecté, d'où vient le déphasage finalement ? Puisque j'ai dit que finalement, à ce taux d'acquisition de l'information sur le qubit, il y a une contrepartie dans le déphasage du système. Alors d'où vient ce déphasage ? Eh bien, on effectue ce mouvement brodien. Là, les différentes pitches nettes données par l'instrument de mesure nous font évoluer de manière brownienne sur la sphère de Bloch, mais tout en restant sur un grand cercle. Donc là, j'ai représenté ce grand cercle. Je suppose que la rotation aléatoire se fait dans le plan XZ. Donc, on évolue de manière brownienne sur ce cercle. Et vous voyez qu'en moyenne, pas instantanément, mais en moyenne, eh bien, la longueur de X, enfin la projection suivant X, va diminuer. Parce que vous voyez bien que quand on aura échantillonné tout le cercle, eh bien, X sera égal à 0. Donc on voit bien qu'il y a un déphasage, une perte de phase associée à la mesure. Et en fait, on peut très bien comprendre cette relation, puisque la longueur de ces incréments, ici c'est Q, et leur variance c'est Q carré, mais en moyenne, la loi des cosinus et des sinus nous dit qu'on rentre dans la sphère de Q carré sur 2. Hein, vous savez que la différence entre 1 et le cosinus, c'est 1 moins le sinus au carré. Donc, on a cette relation. Donc, finalement, on rentre à l'intérieur de la sphère avec un taux. Donc, le taux, il y a un déphasage effectif induit par la mesure qui va être donné par exactement gamma m sur 2. Et donc, finalement, on peut établir une espèce de produit. Il y a un produit universel. C'est-à-dire, quand vous prenez dans cette expérience parfaite le temps de mesure, qui est l'inverse de ce déphasage, l'inverse de ce taux d'acquisition de l'information, que vous multipliez par le taux de déphasage induit par la mesure, eh bien, vous trouvez ce nombre universel 1,5. Lorsque la mesure n'est pas parfaite, eh bien, vous aurez une inégalité, vous aurez ce produit sera toujours supérieur à 1,5. Et c'est exactement la même chose que la relation d'incertitude qui nous dit que lorsque vous effectuez une mesure avec une certaine précision delta x sur la position, eh bien, vous subissez sur l'impulsion une quantité aléatoire donnée comme ça par h bar. C'est en quelque sorte, vous avez une relation d'incertitude ici entre, disons, z et le phi en quelque sorte. J'insiste bien que ça peut paraître paradoxal tout ça. Le vecteur de Bloch rentre à l'intérieur de la sphère, non pas parce que ce grand cercle tourne dans le plan équatorial, mais c'est parce que ces incréments ici nous font en moyenne rentrer ici pas vers l'intérieur de la sphère de Bloch. C'est exactement la même chose que si on était déphasé le long de l'équateur. Ça. Donc voilà un exemple d'intégration de ces équations. Voilà, donc on va supposer que le rendement de l'amplificateur est égal à 1 et on va soumettre le spin à un forçage de Rabi qui va être quand même plus rapide que le taux d'acquisition d'informations. Hein. Donc on force le spin à tourner plus vite que la vitesse avec laquelle on le mesure. Et voilà différentes quantités. Alors, ce que vous mesurez instantanément, ça correspond à ce tirage des pièces, plus ou moins 1. J'ai filtré, en fait, sur le résultat sur 100 tirages de pièces. Donc, ce que vous avez ici, c'est un bruit moyen. Vous voyez, vous ne reconnaissez absolument rien. Il y a absolument, ce bruit est complètement blanc. Vous n'avez aucune information. Visible, du moins, hein, visible. Voilà la valeur de la matrice densité conditionnée par la mesure. Vous voyez que vous avez des oscillations, mais qui se déphasent, en fait, au cours du temps. Voilà le choc en retour de la mesure sur le qubit. Et si vous effectuez un très grand nombre de ces réalisations, en moyenne, voilà la composante Z de la matrice densité qui s'amortit parce que, finalement, la fréquence de Rabi, ici, est modulée au cours du temps. Vous voyez que son amplitude est bien toujours égale à 1, mais ces chocs aléatoires dus à la mesure nous déphasent. Et tout est bien conservé ici. Vous voyez, vous pouvez, dans cette expérience, mesurer la fréquence de Rabi, elle s'amortit, mais évidemment, vous n'avez aucune information sur la position du spin. Si, par contre, vous augmentez la vitesse de la mesure, vous allez voir un comportement différent. Alors, j'insiste bien, là, il y a trois quantités, toujours, dans ce genre de considération. Il y a les valeurs mesurées instantanément sur le système, le zeta ici, ce qu'on reconstruit de la matrice densité à partir de cet ensemble de mesures et ce qu'elle est en moyenne sur toutes les réalisations. Voilà ce qui se passe si on rend la force de la mesure, le taux d'acquisition d'informations sur le qubit, bien supérieur à la fréquence de Rabi. On voit qu'on produit ce qu'on appelle des sauts quantiques. C'est les sauts quantiques que nous ont montrés Irfan Siddiqui il y a 15 jours. Voilà, maintenant, la mesure nous indique que le système saute. On voit accumulation de l'état du système en plus 1 ou moins 1. On commence à voir qu'effectivement, on inspire que la composante Z est quantifiée. Voilà la composante hors phase accumulée. On voit qu'il s'agit bien, on voit que finalement le système se déplace par saut. Hein. On voit qu'il y a des ruptures brutales dans l'ensemble des mesures. Et la matrice densité reconstituée, reconstruire un observateur qui aurait accès à la mesure de façon parfaite, sans aucune perte d'information, eh bien, on reconstruirait l'état du spin. Vous voyez que c'est dans ce cas-là, ça correspond assez bien à ce que l'on obtient en filtrant le résultat brut de la mesure. Et ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le phénomène des sauts quantiques. Vous voyez bien que si vous arrivez à, en quelque sorte, mesurer suffisamment rapidement, eh bien, vous êtes bien renseigné sur la composante Z du système. En même temps, vous avez perdu, évidemment, pour le système, toute possibilité d'oscillation. Il n'y a plus de traces d'oscillation de Rabi du tout. C'est un peu ça le principe d'incertitude. Ou bien vous mesurez le système suffisamment faiblement et il peut osciller, et vous pourrez enregistrer des oscillations de Rabi, mais vous ne pourrez pas connaître à tout moment la projection suivant Z du spin. Ou bien vous la surveillez de façon très précise, vous la connaissez, mais évidemment, vous avez empêché cette oscillation de Rabi. Alors, ce qui est... Oui ? Oui, alors ici, donc la mesure ici, elle est continue, mais ne fait pas intervenir, ce qu'on fait, c'est qu'on ne mesure pas dans notre expérience chaque photon envoyé, c'est un trait d'onde. Donc, en fait, c'est pour ça que je moyenne, au lieu de vous donner finalement, il ne va pas y avoir dans une expérience réelle, c'est plus 1 et c'est moins 1, il y aura plutôt un signal continu que finalement je moyenne pendant un certain temps. Mais si vous, je pense que le signal qui correspond vraiment, qui est plus exploitable, c'est cette accumulation de la composante hors phase qui est bruyante. Si vous dérivez ce signal, vous aurez beaucoup de bruit. Mais ce bruit vous permet, l'analyse de ce bruit vous permet de reconstituer la maîtrise densité du système. Je vais me dépêcher pour finir le satisfaire. Pardon ? Ah, alors oui, et en fait, ça c'est une manifestation. C'est ce que je viens d'indiquer, c'est exactement l'effet Zénon. Cette tendance du système, le système est tellement mesuré qu'il ne peut, il a du mal d'être forcé par le. Donc la force de Rabi a tendance à le faire tourner, mais il est retardé dans ce mouvement par la mesure qui le force à en fait rester au pôle. Tout ce qui se passe, c'est que de temps en temps, il arrive, il y a une accumulation aléatoire favorable, il arrive à battre cette projection vers l'épaule et il arrive à passer dans l'autre état. Vous voyez que, puisqu'on est capable en quelque sorte, de prévoir le comportement du système, il est possible de régler exactement le taux, la force de la mesure pour maintenir les oscillations de Rabi. Et voilà, ce qu'a proposé Sacha Korotkov. C'est un simple contrôleur proportionnel, c'est-à-dire qu'on prend cette valeur suivant Z et en quelque sorte, on la réinjecte directement à l'entrée. On va ralentir ou accélérer la fréquence de Rabi proportionnellement à ce qu'on a trouvé. Et voilà les résultats. Ça, c'est le résultat d'une simulation qu'a effectuée Maziar Miraimi, qui travaille avec nous sur ces problèmes. Et voilà, on prédit que finalement, avec des paramètres raisonnables, vous voyez par exemple que l'efficacité ici est égale à 1,5 de l'amplification, donc c'est tout à fait réalisable. Eh bien, on peut obtenir une fidélité des oscillations de Rabi de 60%. Maziar a inventé récemment un protocole qui améliore cette performance. En fait, on peut limiter la mesure dans le temps. Au lieu de mesurer de façon permanente pendant toute l'oscillation de Rabi, on peut concentrer la prise de mesure uniquement quand le système est au voisinage des pôles et à ce moment-là obtenir une fidélité qui peut s'approcher de 80%. Et surtout, dans ce type de protocole, on n'a pas besoin d'effectuer des calculs aussi rapidement que dans le contrôleur de proposé par Sacha Korotkov. On peut se permettre un délai dans la mesure, ce qui rend, le feedback beaucoup plus réaliste. Voilà, donc je vous remercie de votre patience. Ça a été une leçon qui a été plus longue que d'habitude. Je vous remercie aussi pour vos questions. Donc la conclusion, vraiment la conclusion fondamentale auquel j'espère être arrivé, c'est qu'il est tout à fait possible, en quelque sorte, de contrôler les canaux d'information entre le système mesuré et le système mesureur, et qu'il y a réciprocité, il y a une bidirectionnalité. Chaque canal de prise d'information va finalement faire du bruit en retour, mais si on exploite parfaitement l'information qui vient de ces canaux, bien on peut prévoir le système et donc en quelque sorte compenser le caractère stochastique de la mécanique quantique. Et ça, c'est à mon avis toute une avancée absolument considérable dans la compréhension de la mécanique quantique et qui finalement nous établit un parallèle entre le théorème fluctuation-dissipation ordinaire, classique. On sait que fluctuation et dissipation sont reliées. Et bien là, on établit une correspondance entre finalement la prise d'informations sur le système et le bruit en ressources. C'est ces relations universelles qui permettent ce contrôle parfait. Donc, il reste plus qu'à vous remercier pour votre attention pendant tout ce cours. Et je vous annonce donc le sujet du cours de l'an prochain. Donc, je continuerai à parler de cette question de l'interaction entre le système mesuré et le système de mesure, mais dans de nouveaux systèmes de la physique mésoscopique qui sont ces nanorésonateurs mécaniques dont va nous parler Andrew Cleland cet après-midi. Et il y a de nombreuses personnes qui m'ont aidé dans la préparation de ces leçons ou qui ont, disons simplement par leur discussion, m'ont appris beaucoup de choses. Elles sont listées ici. Je vous remercie pour votre attention.